L'actu des oubliés. Saison 4. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le 11e épisode de l'Actu des Oubliés. Cette semaine, nous partons au Sénégal où l'élection présidentielle a été reportée par le président actuel Macky Sall, dont le dernier mandat est censé s'achever d'ici quelques semaines. Avec nous pour en parler, Ousmane Diallo, chercheur à Amnesty International pour le Sénégal et le Sahel, Florian Bobin, étudiant-chercheur en histoire à l'université Cheikh Diop de Dakar, et Claire Rivière, journaliste indépendant qui écrit notamment pour Afrique 21. Ok. Le 5 février dernier, le Parlement sénégalais vote le report de l'élection présidentielle prévue 3 semaines plus tard. Une mesure directement impulsée par le président Macky Sall, au pouvoir depuis 12 ans, et qui de fait prolonge de 10 mois son mandat. Dans l'Assemblée, c'est le chaos. Les députés de l'opposition crient au coup d'état institutionnel et sont finalement expulsés par la gendarmerie en armure. Mais alors pourquoi ? Macky Sall, président en fin de second mandat, ne peut pas se représenter. Il est soupçonné de vouloir manigancer pour s'octroyer le droit à un troisième mandat, tout comme s'y était essayé son prédécesseur, Abdoulaye Wad. D'autres pensent que son dauphin, Amadou Ba, contesté au sein même du parti présidentiel, était trop mal en point pour remporter l'élection. En réalité, au fur et à mesure des années, ce personnage autoritaire s'est forgé une voie présidentielle en intégrant ou en écartant ses opposants. Face à lui, les contestations ont été nombreuses et réprimées dans le sang. Plus de 60 personnes ont été tuées en manifestation depuis 2021. Le Sénégal, considéré comme une démocratie stable selon les critères occidentaux, est aussi l'une des puissances régionales où la présence française résiste encore malgré un ras-le-bol populaire grandissant. Ousmane Diallo, chercheur à Amnesty International sur le Sénégal et le Sahel, explique.
Donc le Sénégal est souvent présenté comme la vitrine démocratique en Afrique de l'Ouest, souvent comparé positivement aux autres États qui ont connu des coups d'État, des conflits intérieurs assez sanglants. Et dans ce contexte-là, les dynamiques de pouvoir néocolonial et postcolonial ne sont pas forcément considérées. Donc, ces dynamiques-là étaient occultées par le discours sur la démocratie, sur la République. Maintenant, ce qu'on voit au cours de ces dernières années, c'est une remise en question de ce qu'on appelle le système, donc, qui est cet enchevêtrement d'intérêts politiques, militaires, économiques, religieux. Donc on a vu au cours de ces dernières années pas mal de mouvements qui contestaient cet état de fait. Donc il y a les mouvements Frappe, France dégage, il y a eu les mouvements qui appelaient par exemple au boycott des supermarchés Auchan qui sont apparus il y a quelques années au Sénégal et qui font un maillage territorial assez important. Bah, il faut le voir lors des manifestations, par exemple, l'attaque contre des symboles comme Auchan ou bien les stations comme Total reflète certainement ces anxiétés économiques d'une bonne partie de la société sénégalaise pour lesquelles des réponses n'ont jamais été apportées. Jusqu'à l'apparition de mouvements comme Frappe France Dégage, PASTEF, qui tiennent un discours sur le système pour remettre en question ces rapports post-coloniaux et néocoloniaux et qui, par cette offre possibilité politique, se démarquent nettement des acteurs traditionnels comme la majorité présidentielle ou bien même les corps économiques qui n'ont jamais pu articuler ces anxiétés-là.
Le dernier mandat de Macky Sall est en effet marqué par d'importantes fièvres populaires, souvent directement liées à son action politique et répressive, ainsi qu'à la montée en puissance d'une organisation politique, le PASTEF, acronyme de Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l'Éthique et la Fraternité. Le parti incarne une volonté de se démarquer des relations post-coloniales que le pays entretient avec la France et d'assurer au Sénégal une souveraineté alimentaire et monétaire. Dictateur, le peuple debout uni ne craint aucun dictateur, tu nous fais pas peur. Remontons donc à mars 2021, lorsque survient l'arrestation du leader charismatique du PASTEF, Ousmane Sonko. Ancien syndicaliste et fonctionnaire des impôts, il est révoqué de la fonction publique pour avoir révélé les avantages fiscaux dont bénéficient certaines multinationales. Puis il dénonce dans un livre les conditions d'attribution des permis d'exploitation pétrolière et gazière dans le pays. Sa posture et ses discours révèlent en soi ce qui couve en Afrique de l'Ouest, une remise en cause du système post-colonial entretenu par les multinationales, notamment françaises, et de la captation de l'économie sénégalaise par les capitaux étrangers. Claire Rivière, journaliste indépendant qui travaille notamment pour Afrique 21, la radio belge et le quotidien Le Soir, raconte.
Voilà, il y a quelques histoires. À Kaolack, par exemple, il y a une grande entreprise qui s'appelle Les Salins, qui est une entreprise à capitaux français, je crois que c'est Les Salins du Midi, il me semble, qui donc voilà, a une conception d'exploitation de sel et a un accord avec les impôts qui fait qu'il ne paye que très peu de taxes, pas ou très peu de taxes, tout en faisant bosser des gens depuis des dizaines d'années, des journaliers qu'on fait bosser sans les embaucher avec des contrats fixes. Voilà, c'est sûr qu'il y a toute cette dimension d'exploitation économique qui est là et qui est un des moteurs de toute la contestation qu'on connaît ces dernières années.
Niagale Bakayoko, docteur en sciences politiques et spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, estime elle aussi sur Arte. Le Mali était aussi présenté en 2018 comme une vitrine démocratique. Il faut se méfier de cette illusion. Tout le monde est très surpris de la violence du rejet occidental. Et je ne pense pas que ce soit uniquement la jeunesse. Quand on connaît ces sociétés, on voit que le rejet est très profond dans toutes les générations de ce modèle qui a validé des systèmes politiques de cooptation. C'est exactement ce à quoi on a affaire au Sénégal. Comme le dit enfin Florian Bobin, étudiant-chercheur en histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Il y a évidemment la dimension économique qui est centrale, la question de la souveraineté monétaire avec le franc CFA. Il y a également des dimensions plus symboliques, des dimensions bureaucratiques, des dimensions diplomatiques. Évidemment que la réaction de l'État français au coup d'État institutionnel qui s'est déroulé au début du mois de février 2024 est symptomatique du double discours français. Condamner un coup d'État militaire qui se passe au Mali, en Guinée, au Niger, au Burkina, et dans le même temps avaliser ceux qui se font au Tchad, au Gabon et, dans ce cas-ci, au Sénégal, est aussi symptomatique de ce malaise post-colonial, néocolonial, qui continue de gangréner ces relations-là, qui, en réalité, lorsque l'on regarde l'histoire des indépendances, n'a pas été marquée par une véritable décolonisation profonde. Indépendance ne signifie pas décolonisation. C'est deux processus qui sont censés s'accompagner l'un et l'autre, mais qui ne sont pas nécessairement effectifs l'un après l'autre. L'indépendance économique, l'indépendance culturelle, l'indépendance monétaire, l'indépendance éducative, tout ça, c'est des processus qui sont la résultante de décolonisations successives dans ces différents domaines. Et ce n'est pas ce qui s'est passé au Sénégal. Et la preuve en est aujourd'hui, les relations diplomatiques, le fait que la bureaucratie sénégalaise soit aussi tant marquée par les héritages coloniaux et néocoloniaux de la façon de fonctionner à la française. Il y a aussi la question de la langue officielle, qui est le français. Comment se fait-il que dans un pays où plusieurs langues nationales cohabitent, mais une d'entre elles est devenue la langue vernaculaire, qui est le wolof, comment se fait-il que l'administration ne se fait que dans une langue française qui n'est parlée que par une minorité de la population? Il y a donc tout un ensemble de questions qui sont plus profondes que simplement des mouvements de fièvre. C'est des courants qui traversent la société, qui la traversent depuis des décennies. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un espoir de changement. C'est un peu ce qui se joue aujourd'hui, à mon sens.
Ousmane Sonko incarne de manière très personnelle cette vague de fond que beaucoup attendent. En Casamance, d'où il est originaire, et peut-être plus encore à Zinguishor, la ville dont il est devenu le maire, il semble adulé par beaucoup, comme le montre l'enquête réalisée par Eglas pour Afrique 21, qui recueille notamment les propos de Prosper.
La popularité d'Ousmane Sonko, c'est qu'il est comme nous. Moi, je pense qu'il peut être notre Sankara. Il a un discours contre le système colonial. Quand tu fais ça, la France et ses laquais veulent te faire tomber. Il a la jeunesse avec lui, et on est prêt.
C'est dans ce contexte qu'Ousmane Sonko est accusé en 2021 de plusieurs crimes et délits, notamment de viols répétés à l'encontre d'Adji Sarr, employé d'un salon de massage qu'il fréquente. Sonko est arrêté et mis sous les verrous. Éclatent alors des manifestations nombreuses et massives. Ses partisans crient à la machination. Les émeutes éruptives aboutissent à des attaques contre des bâtiments publics, à des pillages contre des multinationales françaises telles que Eiffage, Auchan ou Total.
Maintenant, on en a marre de voir nos ressources sortir de l'Afrique sans que nous, les jeunes africains, qu'on puisse avoir une possibilité d'en bénéficier. Maintenant, on en a marre. On en a marre de voir nos mamans à l'hôpital sans puisse avoir des soins médicaux. On en a marre de voir les jeunes qui n'ont pas la possibilité de trouver du travail. Le combat a dépassé la personne d'Ousmane Sonko. C'est quoi le combat? C'est une révolution pour que l'Afrique puisse être libre.
Am départ gay day bi nga gagné ñu benno bok yaakar ni rew mi xeyna dina tané mais falu rek solo golo kaw jappaté ni ku jowé li do lo wax day rek su bobé diko bu mu la bét bu askan bi fippo mu don nga jaar ci buntu bi genn ci jamm
mu don nga tagon ci jamm
président bu yéremul askanam
koko raw sax jamm
yow yaay tan kan moy beuré tan kan ngay beurel ci jay do rek nga nu mëné ben la fi jëlé melné dictateur lo don xolé bañ lay tout
en 2021 ou 2023 je pense qu'on a affaire à une colère très populaire de gens parmi les classes les plus défavorisées de la société, notamment des jeunes, pour qui Ousmane Sonko, cet opposant, personnifie quelque part l'espoir. L'espoir de changement, l'espoir d'amélioration des conditions socio-économiques qui sont très dures au Sénégal aujourd'hui. Macky Sall se prévaut d'un bilan sur le plan matériel, c'est vrai. Il y a des grandes infrastructures qui ont été construites, mais c'est pas des choses qui bénéficient à la masse des gens qui quand même galèrent, quoi. Il y a une inflation énorme. Voilà, il y a des statistiques qui montrent qu'un certain nombre de ménages à Dakar ne font qu'un seul repas par jour. Quand en 2021 et 2023, il y a des manifestations violentes qui tournent à l'émeute, qu'il y a même des magasins Auchan qui sont pillés, il y a un côté aussi peut-être un peu émeute de la faim.
Le M24, coordination de partis politiques et de la société civile, parvient à ramener un calme relatif en obtenant la libération de Sonko contre son maintien au contrôle judiciaire.
Tout le Sénégal est content parce que vraiment la vérité a triomphé, le peuple a gagné son combat. Et nous sommes vraiment fiers de Ousmane Sonko.
Entre-temps, la répression d'État a été brutale. 14 personnes ont perdu la vie, 12 dont 3 mineurs directement à la suite de tirs de la police. Une violence héritée, selon Florian Bobin, de l'histoire du pays, mais qui s'est amplifiée ces dernières années.
Un ensemble de mesures et de pratiques ont perduré au-delà de ce qu'on appelle les indépendances politiques, qui en réalité n'ont pas sonné dans la grande majorité des anciennes colonies françaises en Afrique de rupture véritable dans les pratiques, ni même dans les institutions en réalité. Donc ça, c'est dans le temps long, une violence d'État qui s'est maintenue, qui a été renforcée par le premier régime post-indépendance, sous Léopold Sédar Senghor, qui a pris des formes différentes dans les deux régimes suivants, sous Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, mais qui, ces dernières années, s'est retrouvée de manière fatale dans la rue, avec une habitude qui est relativement nouvelle, pas inédite, mais nouvelle dans l'échelle qu'elle a prise, qui est la facilité avec laquelle la gâchette est désormais tirée dans le cadre de manifestations pour la plupart pacifiques, avec une militarisation de la police, police qui par ailleurs continue d'être en partie formée par des forces de la gendarmerie française, qui continue à user d'ammunitions fournies par des armateurs français. On a donc vu, avec la militarisation de la police, un accroissement considérable du bilan humain, avec arrimé et accompagné par tout un ensemble de mesures comme l'interdiction des manifestations, qui sont systématiquement réprimées à coups de gaz lacrymogène ou à coups de tir à balles réelles, des arrestations arbitraires qui ne sont pas sous le coup de décisions de justice, la torture en prison qui s'est généralisée ces dernières années. Il y a donc tout un contexte de répression politique mais également social et économique, dans lequel s'est inscrite cette décision de la part du président Macky Sall d'annuler les élections, qu'il faut prendre en compte, puisque c'est une véritable bombe sociale et politique à retardement.
La question électorale est encore l'objet des manifestations de juin 2022. Les titulaires de la liste Yewi Askawi aux élections législatives sont rejetés par le Conseil constitutionnel. Cette liste, dont le nom signifie « Libérer le peuple » en Wolof, réunit entre autres le PASTEF d'Ousmane Sonko et le mouvement Taxaou Sénégal de Khalifa Sall, ancien maire de Dakar. Cette disqualification politique fait ressurgir toutes les raisons de la colère. Les revendications sont multiples. Contre la vie chère, contre le chômage, pour des services publics décents, en particulier en matière de santé et d'éducation, contre la mauvaise gouvernance et pour la souveraineté alimentaire et financière. La jeunesse se mobilise en masse, d'autant qu'elle sent venir la tentative de Macky Sall de se présenter à un troisième mandat. Alors que les voies légales pour le chasser du pouvoir s'épuisent, les appels à la désobéissance civile, voire à l'insurrection, se multiplient. À partir de février 2023, les affrontements entre forces de sécurité et partisans d'Ousmane Sonko sont très réguliers. Les arrestations d'opposants se multiplient, telles que celle du rappeur Nid Dof, pour diffusion de fausses nouvelles après qu'il ait critiqué le pouvoir sur Facebook. Un autre rappeur, Malal Tala, confie dans une manifestation.
Que depuis quelque temps, on assiste à des arrestations arbitraires. C'est des arrestations pour quelques minutes que personne ne comprend. Si on analyse effectivement ces arrestations, c'est parce qu'effectivement on a un pouvoir qui a peur, qui est en train de faire reculer la démocratie.
La chaîne de télé Valve TV est suspendue à plusieurs reprises pour avoir rediffusé des manifestations interdites. Deux de ses journalistes sont arrêtés. Le directeur Moustapha Diop se défend.
La liberté d'expression n'appartient pas seulement aux journalistes. La liberté d'expression appartient à tous les Sénégalais. Aujourd'hui, combien de Sénégalais sont en prison pour avoir simplement exprimé leur point de vue à travers les réseaux sociaux notamment?
Même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même brada du littoral. Réumi kawo total, nyari at ñepp doyal. Tiku at nul collectivité locale. Numité Sénégal, Assagaru Prezi, apprenti Gorgi, Mbadu Payu Tassi Topon Sengor ñu jité réumi. Wala ndaw si. Ay arriviste au pouvoir, télé faillir sen devoir. Nguur gu fénéyan, ñak vision, gâchis permanent, du solution.
Mai 2023. À l'approche de son procès, Sonko appelle à la désobéissance civile et manifeste entouré par ses partisans dans sa ville de Zingishor. Et alors que le procès se déroule en son absence, Sonko demande à ses partisans de le suivre dans la capitale. Car selon ses mots, la bataille finale se tiendra à Dakar. Ce qu'il nomme la caravane de la liberté quitte donc la Casamance le 24 mai. Mais très vite, elle est interrompue. Le 27, le GIGN sénégalais parvient à arrêter l'opposant et l'assigne à résidence. Quelques jours plus tard, le verdict tombe. Acquitté des accusations de viol et de menaces de mort dont il faisait l'objet, Ousmane Sonko est finalement condamné à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Alors qu'Adji Sarr, la femme qui accusait Ousmane Sonko de viol répété, semble abandonnée par la justice, le verdict sonne pour les partisans de Sonko comme l'aveu d'une machination d'État destinée à l'écarter de l'élection présidentielle. Saïdi Gassama, directeur de la section sénégalaise d'Amnesty International, explique.
Il a été condamné pour un délit pour lequel il n'a jamais été poursuivi, ni pendant l'enquête préliminaire, ni pendant l'instruction. Il y a eu acquittement pour les charges pour lesquelles il était poursuivi, mais on a sorti ce nouveau délit pour asseoir la condamnation. C'est cela qui a évidemment étonné beaucoup de Sénégalais, qui les a laissés incrédules et qui a amené ces réactions spontanées de violence dans les rues auxquelles l'État a répondu avec beaucoup de brutalité, par un usage excessif de la force.
Moins d'une heure après l'annonce du verdict, les rues de la capitale se barricadent. Pneus et poubelles s'enflamment jusqu'en Casamance, en particulier à Zingishor.
Je suis fière de voir que le Sénégal, la jeunesse sénégalaise se réveille, qu'elle se bat. Vous savez, ici, il n'est pas question de Sonko ou de Macky Sall. Ici, chaque citoyen sénégalais et chaque citoyen africain doit se battre pour la liberté de la souveraineté, pour que la justice soit impartiale et pour que chaque entité reste à sa place. C'est ça le combat. La jeunesse africaine n'a plus envie d'immigrer. Elle veut vivre ici, chez elle, avec ses ressources. Elle voudrait une justice équitable pour tout le monde.
À Dakar, l'université Cheikh Anta Diop, foyer historique de contestation, bouillonne. Elle qui est encore marquée à blanc par la répression de 2021-2022, alors que des étudiantes avaient été agressées à coups de poignard jusque dans leur chambre par des membres du syndicat favorable au régime. Cette fois, l'université est cernée d'hommes armés de machettes qui circulent et obligent tout le monde à rester cloîtré. Les étudiants et étudiantes mènent la contestation à l'intérieur de l'enceinte universitaire quand un homme s'exclame « Puisque les autorités ont employé des gens pour nous empêcher de sortir, on va prendre de l'essence et mettre le feu au bus ». La police fait irruption sur le campus. Celui-ci devient un véritable champ de bataille. Le chapiteau, amphithéâtre de la fac de droit, est la proie aux flammes. Les panaches de fumée sont visibles à travers toute la ville. Le lendemain, le recteur annonce la fermeture de la fac jusqu'à nouvel ordre. L'eau et l'électricité sont coupées et toute personne trouvée sur le campus sera susceptible de poursuite, y compris dans les résidences. On écoute encore Ousmane Diallo.
Je pense qu'au niveau de l'Université de Dakar, il faut aussi se rappeler son rôle historique de vigie intellectuelle dans l'Afrique de l'Ouest francophone et comme foyer de socialisation politique et de résistance contre l'autorité tyrannique ou bien dictatoriale à des moments critiques. Durant les événements de mai 68, l'Université de Dakar a été un foyer de contestation et de revendications sociales et politiques. On a vu que tous les gouvernements qui se sont succédés depuis Senghor garde un œil attentif sur ce qui se passe à l'université. Essayer de calmer le mouvement étudiant, de les accommoder, de répondre à leurs attentes et à leurs préoccupations. C'est l'un des éléments centraux de toute politique universitaire à but politique ou bien social au Sénégal. Et le fait que le pouvoir actuel ait décidé de fermer l'université de manière unilatérale est une forme de violence politique. L'université n'est pas seulement un lieu d'enseignement, c'est aussi un foyer social, c'est un foyer de mobilisation politique où des liens de solidarité se sont créés entre des étudiants issus de diverses régions et où, par exemple, les causes politiques ou bien les causes universitaires, sociales, ont été articulées par les différents mouvements étudiantins qui y sont. Donc, décider de fermer l'université en accusant les étudiants d'avoir brûlé la bibliothèque, ce qui s'est avéré infondé, c'était non seulement une forme de délégitimation du mouvement étudiantin, mais aussi un moyen de justifier cette répression que tout le monde a considéré comme abusif. La fermeture de l'université, pour moi, c'est une réponse politique et c'est aussi une forme de répression qui se manifeste aussi par les coupures d'Internet, la suspension des médias privés qui ont une liberté éditoriale avérée, mais aussi la répression des manifestations et les détentions arbitraires de membres de l'opposition. La fermeture de l'université s'inscrit dans ce cadre-là, à mon avis.
Macky Sall, dictateur !
Macky Sall, dictateur !
Macky Sall, dictateur !
Macky Sall, dictateur !
Dans la soirée, la chaîne de télévision Valve TV, qui retransmet les émeutes en direct, est coupée. Twitter, WhatsApp et Facebook deviennent inaccessibles depuis le Sénégal. Le ministère de l'Intérieur annonce la mort de 9 personnes dans les émeutes. Dans les jours qui suivent, les affrontements sont particulièrement violents dans la capitale. L'armée est appelée en renfort à Dakar. Le PASTEF, dont de nombreux militants et militantes sont incarcérés, se fend d'un communiqué. Peuple sénégalais, arrêtez toute activité et descendez dans la rue pour faire face aux dérives dictatoriales et sanguinaires du régime de Macky Sall jusqu'à son départ de la tête de l'État. Le PASTEF invite les forces de l'ordre et l'armée à se mettre du côté du peuple opprimé par Macky Sall. Elles doivent désobéir aux ordres illégaux et anti-républicains. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La démocratie s'arrache. Quelque temps plus tard, le parti est dissous administrativement et son secrétaire national et candidat à la présidentielle en l'absence d'Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, est accusé d'atteinte à la sécurité de l'État, appel à l'insurrection et association de malfaiteurs. C'est donc dans ce contexte qu'arrive l'élection présidentielle. Elle est attendue avec hâte par l'opposition, d'abord parce que l'espoir existe de voir un candidat anticolonial s'imposer. D'autre part parce que désormais les manigances de Macky Sall sont bien connues. En 2019, l'homme s'était fait réélire en se forgeant une élection sur mesure. D'abord, deux opposants avaient été écartés. Karim Ouad, condamné pour corruption, privé de ses droits politiques et exilé au Qatar, voyait sa candidature annulée par le Conseil constitutionnel. Tout comme Khalifa Sall, après sa condamnation pour escroquerie aux deniers publics lorsqu'il était maire de Dakar. Dans les deux cas, il est depuis prouvé que les droits de la défense ont été bafoués et que le pouvoir exécutif s'était immiscé dans ces procédures.
Ces dernières années, la justice sénégalaise a été mise sous pression et mise sous stress par plusieurs affaires politiques qui ont conduit en fait à la crise politique et institutionnelle que vit le pays depuis mars 2021 et qui s'est intensifiée, disons, à l'approche des présidentielles qui étaient prévues le 25 février dernier. Ce qui est frappant, c'est la manière dont les affaires politiques sont utilisées pour conditionner la réaction de la justice. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on a vu une certaine politisation de l'administration publique qui a pu décider de ne pas exécuter des ordres judiciaires demandant de donner des fiches de parrainage à Ousmane Sonko afin de lui permettre de soumettre sa candidature. On voit quand même que le gouvernement a manipulé, utiliser du temps, utiliser les ressources judiciaires et exercer tout un tas de stratagèmes pour ne pas être obligé d'exécuter des décisions de justice exécutoire ou bien pour empêcher certains citoyens de pouvoir jouir de leurs droits civiques et politiques. lors du discours du 3 février, ce qui a été dit, c'était que deux juges du Conseil constitutionnel ont été accusés, sont suspectés d'être corrompus par un candidat pour exclure Karim Ouad. Et donc, l'intégrité du processus électoral est remise en question. Je pense que d'une certaine manière, c'est une manipulation du processus, une volonté unilatérale d'influer sur la direction du processus électoral qui a abouti à une crise politique et surtout qui a abouti à la mort de 4 personnes au Sénégal tuées pas mal par les forces de défense et de sécurité.
Fanny Pigeot et Ndongo Sambasila viennent d'ailleurs de publier l'ouvrage « De la démocratie en France-Afrique », dans lequel un chapitre entier est consacré à ce qu'il et elle appellent l'eugénisme électoral de la vitrine démocratique sénégalaise. Ils sont détaillés comment l'instrumentalisation de la justice, la manipulation du fichier électoral et le recueil de données ont permis à Macky Sall de s'assurer son maintien au pouvoir en 2019, avant même le vote de son peuple.
Il y a ce que justement Ndongo Sambasila et Fanny Pigeot appellent l'eugénisme électoral, voilà, où ils ont pu montrer qu'en 2019, si Macky Sall a été réélu au premier tour, c'est probablement aussi parce que le fichier électoral a été taillé un peu sur mesure, enfin en tout cas ils ont observé des choses troubles, c'est-à-dire que dans le département de Dakar, qui est plutôt un fief de l'opposition, le nombre d'électeurs a peu ou pas augmenté entre 2012 et 2019, alors que suivant la logique démographique, il aurait dû beaucoup augmenter. Par contre, il y a une autre région beaucoup plus petite, Fouta, plus petite en nombre d'habitants, une région rurale plutôt favorable au camp de Macky Sall, qui elle a vu son nombre d'électeurs considérablement augmenter.
Dans les derniers mois, tout est fait pour empêcher le candidat du PASTEF de participer. Le pouvoir exécutif va jusqu'à limoger les commissaires de la commission électorale qui estiment que le parti d'opposition doit pouvoir se présenter, exacerbant encore davantage le sentiment que Macky Sall veut imposer d'une manière ou d'une autre les différents candidats à sa réélection. Alors, une fois échouée la tentative d'exclure l'opposition radicale et anticoloniale, il ne reste plus qu'une chose à faire, annuler l'élection. La tentative de Macky Sall, après plusieurs rebondissements, aura finalement échoué. Il n'aura réussi qu'à la reporter d'un mois, puisqu'il y a quelques jours, une nouvelle date est tombée, presque imposée par le Conseil constitutionnel. Si tout va bien, les Sénégalais et les Sénégalaises iront voter le 24 mars. Ce sera aussi la date de notre prochain épisode, dans lequel nous tenterons de comprendre comment la société sénégalaise est parvenue à repousser cet assaut, tout en nous intéressant aux initiatives populaires et aux dynamiques collectives qui incarnent la volonté d'un changement radical au Sénégal. Sonu di wax yeen ñepp yam kif kif la 69 lima ci gëna metti di gis boy di dé rew mi ñi ko fi jité yeppay roy lu ci fer nacc ba ciowlu di jex ñu rongoñu du fer nacc bu dem jant bi fek ñolo folli bul reey gaddu sa col di tuité suñu jabot bi di dé mënu ñu tok di muñ rek di len xol ñu ñuy reey naw mu politicien duma politique man kuy tankam lu kilifa diiné duma wax lu muy dégg suba yaaru sa netalé say dom suñu tay ndaw yi prison lañuy xéssé né col lañuy gëj ndox bi jox nga ko macron moldu jaw ba gis jeun police ar lañ ko santone tay ñuy door niti gën maire bu si ñak sa dom yu xu woy fuñu jëm xex bi ñepp si d'accord ndox ñom yoon buñu jël mënon nañ la denk kasso bañ la jox suñu dëkk palay moy denc sacc rebeus tej ni tu dëgg du med ngeen ñu fokk me nerve rek du doy bamel du teeku deedi dox na lert seeni nopp beut bu rusul toj loy de jaamu rew bu mënul dox jaay suñu pétrole bu ñuy sangu ñuy genn wuti ndox tal suñu alal bu ñu fippo nga genn tukki daw jang am diplôme mais jaratul may dem di wuti job ku febar denga hôpitaux yi amul gaz loy jël ku jaay sa mam yi da fay lew ni au champ tiaga duñ ko nax ñaari yoon duñ la jox 3ème chance doyna deret tu bado lo dotul cimetière France deret di touru mo gën drapeau bi di ciubu rew may meussa nguru dañuy fenn ñi lay du nguru gëmal yalla te dem sa lënd may da fa leer jarul nga ñi téré marché parce que jaay nga sa rew do ko ñi jangal nit ñi raxas so xam nañ say loxo setul taxaw leen ñu jog politicien mbalit sax da ko xeexlu Macky Idi Niass tank demo leen abal ñu match bi du tass ñu bañ dëkk bi taggé gën di sacc ci bir mbass bu si sa dom déwon yemalé nga ko fi bu yaa Fatel le 23 juin tanga fogon ni lidu am ni la won ba soppi di dem ñu xaar ku ñew soppi système jeunesse bi for musique fait ci ba romb gox bi système dalay diñu gëlemal suñu kom kom di ci dem wax ma luñu def ci mbey mi tous ces hommes cultivés ni dess ci kasso bi xexaluñ sen bop bu yemon ci dew ak dundu ba tay duñ xex ak sen ngor lu way di def bëss dina wad sa kaw lu way di def bëss dina wad sa kaw right. C'était le 11e épisode de l'actu des oubliés. Merci à Ousmane Diallo, Claire Rivière et Florian Bobin pour leur participation. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les nombreux articles consacrés au Sénégal sur Afrique 21, Bastamag ou encore Mediapart. En musique, vous avez pu écouter Dictateur de Xuman, Diogoufi de Kerguikrou et en ce moment Free Sénégal de Deep Doundougis.